France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la libre pensée.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote.
Bonjour, au micro Christophe Bitteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Lecourt Grandmaison, politologue français, spécialisé dans les questions qui ont trait à l'histoire coloniale, au racisme et aux origines de l'islamophobie. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Saclay-Évry, Val-d'Essonne, et il a enseigné au Collège international de philosophie. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant, et je peux le dire sans flagornerie aucune, c'est pas le genre de la maison, qui s'intitule « La fabrique du roman national républicain » et qui vient d'être publié il y a quelques mois par les éditions Amsterdam. Ma première question, quelles sont les origines du roman national républicain ? Dans votre ouvrage, vous évoquez le spectre de la sociale lié à la Commune de Paris. Renan considère même que le colonialisme est un rempart contre le socialisme.
Alors, relativement aux origines, en effet, il y a deux éléments qui sont des événements, absolument fondamentaux. C'est d'une part la défaite des armées françaises devant les armées prussiennes et l'amputation du territoire national qui est vécue par tous les contemporains, quelle que soit leur orientation politique, comme une catastrophe à la fois politique, militaire et territoriale, bien sûr, comme un revers sans précédent. Et l'autre événement, je dirais trop souvent oublié presque, c'est évidemment la Commune de Paris qui réactive le spectre qui n'est pas à l'époque un spectre évanescent mais très présent, qui est évidemment celui de la sociale, c'est-à-dire de la Révolution.
Le spectre qui hante l'Europe.
Un spectre qui hante l'Europe, un spectre qui hante la France et un spectre dont il faut rappeler qu'une partie des fondateurs et premiers dirigeants de la Troisième République ont très bien connu pour plusieurs raisons. Certains d'entre eux ont déjà connu la Révolution de février-juin 1848. Ils ont connu évidemment la Commune de Paris. L'arrivée à Paris, dans la capitale, et la prise de pouvoir par les communards, et c'est évidemment perçu comme une menace extrême. Et pour compenser, si je puis dire, et cette défaite militaire et le spectre de la sociale, en effet, les fondateurs de la Troisième République vont fabriquer un véritable roman national républicain. L'objectif étant d'une part de réhabiliter la France comme grande puissance européenne et coloniale. Et en effet, vous avez raison de rappeler que Ernest Renan prononce ou écrit exactement cette phrase très importante. Un pays, c'est à peu près celle-ci, un pays qui ne colonise pas est voué au socialisme. En précisant qu'à l'époque, le terme de socialisme désigne tous ceux qui luttent contre l'oppression et l'exploitation des prolétaires. Et ce qui m'a intéressé dans les livres, ce n'est pas tellement la construction de l'Empire que la façon dont cette construction de l'Empire va être légitimée, d'une part, et d'autre part, la façon dont cette construction de l'Empire va être inscrite dans un discours apologétique de la France, apologétique de la colonisation, qui scelle les noces pour le moins singulières entre la République et l'Empire colonial. Et comment ces représentations vont également être intégrées dans les grands manuels de la Troisième République. Et il s'agit par là même d'accréditer la thèse selon laquelle ce qui distingue la colonisation française des autres formes de conquête impériale, c'est que à la différence de l'Espagne et de la Grande-Bretagne notamment, la France est réputée conquérir des territoires et des populations, non pas pour les opprimer et les exploiter, mais pour leur apporter les supposées beautés de sa culture, de sa civilisation et de ses lumières, puisque la France est réputée aussi être la fille aînée et des lumières de la Révolution et de l'émancipation via notamment la déclaration ou les déclarations des droits de l'homme et du citoyen.
Nous reviendrons sur cette spécificité française, pour employer un terme à la mode. Quels sont les éléments constitutifs et le rôle de ce roman national ? Développer un patriotisme, même s'il faut violer Clio pour ce faire, je suppose. Instituer un ordre moral, camouflé sous les traits de ce qu'on a appelé le devoir républicain.
Alors, Dans la première réponse faite, il s'agissait, j'ai traité plus spécifiquement de la question de l'Empire, il s'agit relativement à la Commune et à la volonté de faire en sorte d'intégrer enfin les classes pauvres et dangereuses au sein de la République, de construire en effet un grand roman national-républicain qui comporte un chapitre qui est lui impérial-républicain, l'objectif étant de procéder en effet à la moralisation, et certains contemporains utilisent même le terme, c'est dire la façon dont ils se représentent ces classes pauvres et dangereuses, la moralisation et la civilisation des classes pauvres et dangereuses. Par la grâce de, si je puis dire, de l'éducation, de l'école, qui va jouer un rôle absolument fondamental dans la diffusion de ce roman national républicain, dont l'un des objectifs majeurs est effectivement de refaire un corps national sur le plan à la fois politique, symbolique et social, avec un objectif qui est très clair relativement aux classes pauvres et dangereuses, et c'est répété à plusieurs reprises, et ça fait partie des devoirs qui sont ceux et doivent être ceux des citoyens, troquer le fusil pour le butin de vote, abandonner la barricade pour des manifestations parfaitement pacifiques et des participations parfaitement pacifiques à la vie républicaine et démocratique telle qu'elle s'établit à partir des années 1870-1871 et bien sûr après la Commune de Paris.
Une pacification, voire une intégration de la lutte des classes dans la République.
C'est la neutralisation de la lutte des classes, pour le dire en ces termes, en effet, par l'instruction dont j'essaie de montrer qu'en fait que cette instruction, à la différence d'un certain nombre de projets révolutionnaires, je pense notamment au projet de Condorcet qui avait cette formule admirable, il faut rendre la raison populaire, les hommes de la Troisième République, leur objectif est moins de rendre la raison populaire que de rendre la foi patriotique populaire et de rendre la morale républicaine populaire. Pour le dire autrement, l'institution scolaire a certes pour effet d'instruire, mais ce sur quoi les fondateurs, et Jules Ferry en particulier, mettent l'accent, c'est moins sur l'aspect instruction que sur l'aspect éducation et moralisation. L'objectif n'étant pas seulement de chercher à éduquer et à moraliser les enfants, mais de chercher à éduquer et à moraliser leurs parents. Alors, c'est l'objectif poursuivi. Est-ce qu'ils y sont arrivés? C'est autre chose, mais en tout cas, c'est très présent, notamment dans un certain nombre de textes et de consignes qui sont données aux instituteurs.
C'est le paradoxe pour certains qui ne sont pas forcément au fait de l'histoire précisément de la Troisième République. On a beaucoup idéalisé Jules Ferry et l'école de la République. Il ne s'agit pas de tout rejeter, bien entendu, mais en même temps que se développait l'école de la République, se développait le colonialisme, comme vous l'avez dit. Et donc, d'une certaine manière, l'école avait un rôle important dans ce processus. Vous l'avez esquissé. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce processus scolaire pour légitimer le colonialisme?
Alors, en effet, relativement à la construction du roman national républicain, précisé parce que c'est très important, sinon on ne comprend pas sa puissance et sa nationalisation, c'est-à-dire sa transmission à l'ensemble du corps social et du corps national. Il ne s'agit pas simplement de discours, il ne s'agit pas simplement de textes. Ce roman national républicain va, si je puis dire, être institutionnalisé, ou plus exactement, l'institution scolaire va permettre son institutionnalisation et va permettre sa nationalisation. Relativement à la construction de l'Empire, il s'agit de faire entendre ceci, et ça a à voir avec ce que j'essaie par ailleurs de montrer, est ce que j'appelle la mythologie de l'exceptionnalisme, et aussi de certaine façon la mythologie humanitaire. Relativement à la mythologie de l'exceptionnalisme, il s'agit de faire entendre et de faire comprendre, encore une fois, que la France se distingue radicalement des autres puissances impériales en raison de ses glorieuses traditions, et que sa vocation coloniale, pour le dire ainsi, ou son aventure coloniale, puisque l'expression est très souvent employée, a pour objectif la civilisation des peuples et des indigènes qui jusqu'à présent n'ont pas eu le bonheur de partager la civilisation et la culture française. Et on voit comment, par exemple, à travers un manuel très célèbre qui est celui de Giordano Bruno, qui s'appelle Le voyage en France de deux enfants, comment ce roman impérial républicain est inscrit dans ces manuels scolaires, pédagogisé et traduit en des formes et sous des formes qui sont parfaitement accessibles pour des enfants relativement jeunes, voire très jeunes, de 10 à 12 ans. Et de ce point de vue-là, le manuel de Giordano Bruno est très important. D'une part, parce qu'il faut rappeler qu'il a été diffusé à 7 millions d'exemplaires avant la Première Guerre mondiale.
Grand succès.
Et d'autre part, parce qu'il est d'emblée pensé par son autrice et par les éditeurs, comme un manuel qui doit effectivement pouvoir atteindre des enfants très jeunes, d'où la mise en forme, le voyage de deux enfants, et le recours à une iconographie extrêmement importante, où l'on voit d'ailleurs exprimer la hiérarchie des races à travers une frise qui est reproduite dans le manuel.
L'histoire et la géographie sont au service du colonialisme en l'occurrence. Alors, vous l'avez évoqué, pour les tenants du roman national républicain, on pourrait dire, en schématisant, mais peut-être pas tant que ça, qu'il y aurait un bon colonialisme, celui de la France qui apporterait les lumières et le progrès aux soi-disant, aux supposés sauvages, et puis celui des autres pays qui serait purement cupide, alors que bien sûr celui de la France n'a rien d'intéressé, mais au contraire très humaniste.
Alors le problème auquel se trouve confronté en effet les Républicains, et en particulier Jules Ferry, parce que tous les Républicains ne sont pas d'accord sur ce projet de construction impériale qui débute dans les années 1885, évidemment après la conférence de Berlin, le problème qui se pose à Jules Ferry, c'est que pour pouvoir mener à bien sa politique impériale, coloniale, sa conquête de l'Empire, il doit à la fois attirer un certain nombre de républicains et obtenir leur soutien, mais également obtenir le soutien, disons, de l'aile droite de la Chambre des députés. Pour obtenir le soutien des républicains, il va effectivement forger ce qu'il faut bien appeler un roman impérial républicain qui, encore une fois, puise dans un passé mythifié de la France, le passé des Lumières, le passé de la Révolution française, l'abolition de l'esclavage, l'ensemble tendant à faire de la France, comparativement à d'autres pays européens, une nation d'exception qui, après avoir été la fille aînée de l'Église, devient la fille aînée des Lumières, la fille aînée de des déclarations des droits de l'homme et citoyen, de la Révolution et d'un certain nombre de traditions républicaines. L'ensemble permettant à ceux qui défendent la construction de l'Empire de signifier ceci, que la construction de l'Empire telle qu'elle va être menée par la France se distinguera radicalement des autres constructions dans l'Empire qui ont eu lieu antérieurement, et les contre-exemples qui sont constamment mobilisés pour mieux souligner encore l'exceptionnalisme français, c'est l'exemple britannique et l'exemple espagnol, où sont dénoncés par les républicains les massacres qui ont été commis. Ce qui permet aussi et en même temps d'occulter les massacres qui vont être commis plus tard par ceux qui vont soutenir effectivement cette construction impériale à partir des années 1885 et jusqu'en 1913 et après.
Bien sûr. Alors, ça c'est étonnant de ce fameux roman national. Et bien rares étaient ceux qui se sont opposés au colonialisme français. Vous citez notamment Simone Veil et les surréalistes, par exemple, mais qu'en est-il de cette opposition au colonialisme français ?
Alors vous avez raison de rappeler, d'une part, parce qu'elle est trop souvent oubliée, les prises d'opposition très courageuses et très critiques de la philosophe Simone Veil, qui s'élève de façon très précise et très vigoureuse contre le colonialisme. Les surréalistes qui ont effectivement produit des textes extrêmement violents à l'endroit du colonialisme et à l'endroit du nationalisme, faut-il le rappeler. Mais il me semble nécessaire aussi de rappeler que les premiers à s'opposer à la colonisation sont ceux qu'on appelle les indigènes à l'époque, c'est-à-dire ceux qui vont effectivement
subir.
Subir et donc résister, et dans certains cas subir et résister les armes à la main, et rappeler que d'autres figures comme André Gide ou Albert Londres vont eux aussi critiquer la construction impériale dans les à partir des années 1920-1930, mais en précisant que dans certains cas des critiques adressées au colonialisme français sont des critiques qui ne visent pas à mettre un terme et à critiquer de façon radicale le colonialisme, mais à critiquer ses formes les plus brutales. C'est par exemple le cas d'André Gide lorsqu'il dénonce le travail forcé, il dénonce les formes particulièrement brutales du colonialisme, mais au regard du scandale provoqué, il se défend en estimant que la France doit abandonner ce type de pratique au profit de, pour le dire en ces termes, une forme de colonialisme à visage humain, telle serait au fond la position défendue par André Gide. Donc distinguer à la fois des critiques ponctuelles de colonialisme et des critiques beaucoup plus radicales, défendues notamment par Simone Veil, par les surréalistes, et faut-il le rappeler néanmoins, par la direction du Parti communiste et les communistes dans certains cas.
Effectivement. Le colonialisme à visage humain, c'est intéressant parce que c'est l'expression qui me venait à l'esprit en vous entendant tout à l'heure. Juste simplement, je crois que vous citez dans votre ouvrage un politique qu'on n'aurait pas forcément cru trouver parmi les opposants au colonialisme parce qu'il a fait par ailleurs tirer sur les ouvriers, c'est Clémenceau qui était... un des rares à s'opposer à une forme de racisme institutionnel.
Alors, le premier Clémenceau, celui qui prend la parole en effet au cours d'un débat très important de l'été 1885, est un Clémenceau qui très opposé à Jules Ferry et donc au projet de République impériale. Et pour s'opposer à ce projet de République impériale, Clémenceau entend défendre un projet de République sociale et il fait entendre à peu près ce discours à la Chambre des députés. Si vous construisez l'Empire par la grâce de la République, vous allez être amené à promouvoir la guerre, vous allez être amené à utiliser des crédits de guerre, et en faisant cela, cela vous empêchera de construire ce qu'il faut construire, c'est-à-dire une république véritablement sociale, attentive aux revendications de la classe ouvrière, et non pas seulement aux revendications immédiates, mais aussi attentive aux droits et libertés de la classe ouvrière. Sans doute parce que Clémenceau, lui aussi, et à la différence de ses contemporains, est hanté par la question sociale, d'où la volonté de construire cette république sociale, par la réforme, et là aussi, et là encore, la réforme est pensée par lui comme un moyen d'essayer de mettre un terme au spectre de la sociale, qui, encore une fois, est un spectre particulièrement présent pour les contemporains.
Eh bien, notre émission va devoir malheureusement bientôt toucher à sa fin, mais pour nos auditeurs qui seraient frustrés par les 18 minutes imparties, j'informe que vous allez tenir, Olivier, une conférence le vendredi 13 février, à 18h45 au siège de la Libre Pensée, c'est 10 rue des Fossés Saint-Jacques. Donc je répète, le vendredi 13 février à 18h45 et tout le monde est invité. Par ailleurs, vous pouvez vous procurer le livre d'Olivier dont nous avons parlé aujourd'hui, La Fabrique du Roman National Républicain, aux éditions Amsterdam, soit à notre librairie, soit en venant, c'est encore plus simple, vous pourrez même vous le faire dédicacer, à cette conférence. Donc maintenant, je vais terminer cette émission en vous remerciant, Olivier, merci beaucoup.
Merci à vous.
En remerciant Philippe Baudouin à la réalisation, Claire Poinsignon à la production, Dalia à la technique, et j'aurai le plaisir de poursuivre notre discussion avec Olivier à l'émission du mois d'avril où nous parlerons de votre deuxième ouvrage. Monsieur Apathy a fait beaucoup de bruit, c'est le moins qu'on puisse dire, en comparant la politique coloniale en Algérie avec Oradour sur Glane. Vous allez nous parler à ce moment-là, au mois d'avril, des Oradour colonialistes en Algérie. Merci encore, et donc au mois prochain.
Merci à vous.